Bonjour, c'est Axel Le Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air.
Jean-Lucas, bonsoir. Vous êtes ancien parachutiste du 8e RPIMA, mais vous êtes surtout entré à la DST en 1972, où vous avez travaillé dans le contre-espionnage et dans l'antiterrorisme, et vous publiez aujourd'hui « Un rebelle à la DST, 15 ans d'affaires sensibles », c'est chez Plon. Avant de vous interroger sur ce que vous avez fait à la DST, d'abord, vous êtes ce qu'on appelle un espion. Alors, ça véhicule beaucoup de fantasmes. Comment réagissent les gens quand ils réalisent qu'ils ont en face d'eux un James Bond à la française?
Ça dépend des gens. Ceux qui ont des choses, ceux qui n'ont rien à se reprocher et qu'on approche simplement parce qu'on a besoin d'informations qu'ils possèdent, ils sont animés par un sentiment de curiosité, mais ils sont assez relax. Ceux qui ont quelque chose à se reprocher et qu'on cherche à savoir, ceux-là sont plutôt inquiets. Et c'est une bagarre entre eux et nous. On cherche à leur sortir les informations et eux cherchent à en sortir le moins possible pour en attendant qu'on leur foute la paix.
Alors je disais, vous êtes entré à la DST en 1972. À l'époque, votre boulot, c'était quoi? C'était de traquer les espions du KGB.
Tout à fait. Hein? Tout à fait.
Et de les démasquer, comment on les démasque?
On les démasque en rencontrant le maximum de personnes qui sont en contact avec eux pour essayer de recruter des gens qui vont nous servir à les approcher pour voir si ces gens-là aiment bien, apprécient la vie occidentale et seraient disposés éventuellement à rejoindre les rangs de la France. Parce qu'en fait, la plupart de ce que cherche un service de contre-espionnage, c'est de recruter des sources. Ah. On est fait pour ça. Et c'est tout le travail qu'on fait.
Faire en sorte que des espions soviétiques se retournent et travaillent pour la France.
Voilà.
Comment on procède? Alors, est-ce que c'est les clichés avec le sexe, l'argent, comme on dit?
Oui, le sexe, l'argent, l'idéologie, voilà. À l'époque, il y avait l'Union soviétique était un peu dure et il y avait pas mal de ce qu'on appelait des défecteurs. Alors, les défecteurs, ils allaient beaucoup plus vers les USA parce que les USA avaient d'énormes moyens et ils allaient moins chez nous, par exemple, parce qu'on en avait moins. Mais par contre, on a eu quand même quelques beaux succès dans ce domaine. On ne peut pas tous les citer, mais on a eu quand même de bons succès.
Vous étiez, vous, à la DST, spécialisé dans les interrogatoires.
Spécialisé parce qu'on passait notre temps à faire ça.
Comment on interroge un espion? Comment on le fait passer à table?
Alors, on n'interroge pas toujours les espions, on interroge surtout des gens qui se sont laissés coincer par les espions ou qui se sont été approchés pour justement les faire pencher de notre côté. Et à ce moment-là, on commence par les interroger sur leur vie, on leur fait raconter des tas de trucs, on noie le poisson. La plupart du temps, le travail consistait à leur faire sortir les informations dont on avait besoin sans qu'ils sachent ce qui nous intéressait. Et c'était là le plus délicat de l'affaire.
Donc on manipule, il faut ne pas être manipulé.
Voilà.
Est-ce que vous avez des astuces que vous pourriez nous révéler sur comment, des indices qui montrent que les gens sont en train de mentir? On dit souvent que quand on se touche comme ça, le nez, c'est qu'on est embarrassé et qu'on est en train un petit peu de...
Alors, j'ai lu pas mal de bouquins de psychologie où on raconte ces choses-là. J'étais pas un grand spécialiste, mais la plupart du temps, c'était en leur faisant raconter d'une façon différente toutes les histoires qu'ils pouvaient nous raconter, de voir les contradictions. Et surtout en faisant circonstancier au maximum les éléments qu'ils pouvaient nous donner. En ne pas se contenter de ce qu'ils nous disaient simplement, mais de donner le maximum de précision. Et à un moment donné, il y a toujours un moment où les gens ils se mélangent les
pinceaux. Tout ça est très courtois ou on peut par moment utiliser de la menace, de l'intimidation, du...
La plupart du temps, c'est très courtois. De temps en temps, il y a des moments de tension. Elles sont la plupart du temps feintes. On avait des moments d'engueulade, mais simplement pour tester la personne, pour voir comment il réagissait. Mais tout était toujours fait de la façon la plus aimable possible.
Vous, c'est la DST. En face, vous aviez le KGB soviétique. Quelles étaient leurs méthodes et quel regard portez-vous sur cette institution?
Alors, c'était une institution, c'était des gens remarquables.
Ah oui.
Parce qu'ils avaient des recruteurs de très grande qualité. Et donc c'était le KGB, c'était un très grand service, le GRU aussi, dans un autre domaine, c'était le service militaire. Et je suppose que les gens du FSB sont des mêmes capacités que les gens du KGB qu'on rencontrait à notre époque.
Vous avez vu que cet après-midi, l'Allemagne a arrêté deux germano-russes, oui. Et en fait se sont avérés être des espions. Est-ce qu'à votre avis, vous parliez du FSB, donc qui est le service secret, qui est l'héritier du KGB, est-ce que vous croyez percevoir les mêmes méthodes qu'à votre époque dans leur...
Oui, parce que les méthodes ne changent pas. Mais par contre, je pense que si ces gens-là sont des agents russes, ils sont plutôt agents du SVR. Parce que maintenant, le FSB, c'est le service de renseignement intérieur. Et c'est le SVR qui est le service de renseignement extérieur. Donc ces gens-là, mais vous savez, bon, qu'ils soient russes ou germano-russes, des agents de renseignement, il y en a des Américains, il y en a des Chinois, il y en a des Japonais, il y en a de toutes sortes. Hein. Alors ce coup-là, c'est les Russes. Il y a peut-être des agents américains qui travaillent actuellement en France. Et...
Vous êtes certain que là, en France, il y a des agents de Poutine qui gravitent et vous les reconnaîtriez? Vous pourriez reprendre du service?
Évidemment qu'il y en a, évidemment, c'est normal. Le SVR est un service de renseignement.
Si on vous chargez là, d'aller les traquer, vous iriez où? Vous feriez comment?
Je suis trop vieux pour ça maintenant.
Votre regard d'ailleurs sur tout ce qui se passe, vous connaissez bien la Russie, vous connaissez bien les ressorts de ce peuple. Est-ce que la nostalgie d'ailleurs de l'URSS, vous aviez beaucoup de respect apparemment pour le KGB, peut expliquer les tensions et ce qu'on vit actuellement?
Alors, moi, quand j'ai travaillé sur l'Union soviétique, qui était c'était un pays communiste, et on travaillait plus sur cet aspect communiste. Bon, maintenant, la Russie a complètement changé, et mon regard sur les services russes ont complètement changé aussi. Moi, actuellement, je ne les considère pas comme des ennemis, c'est tout. Le SVR et le FSB font leur travail, comme fait le MI6 et MI5, et comme font les Américains.
Est-ce que les méthodes sont les mêmes? Est-ce que la Russie s'autorise des méthodes d'intimidation, de Novichok, que jamais les en Occident on se permettrait? Ou est-ce que le droit, le license to kill, comme disent les Anglais, ça existe aussi chez nous?
Chez nous, je ne pense pas. Chez nous, je ne pense pas. En tout cas, à mon époque, on ne travaillait pas du tout comme ça. J'ai jamais vu de cas où on avait licence to kill. Hein.
Ouais, les méthodes russes sont plus dures.
Les méthodes russes, ça dépend des pays. Ça dépend L'empoisonnement au Novichok, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Je ne suis pas certain que ce soit les services russes qui soient... impliqué là-dedans.
Est-ce que le métier d'espion a beaucoup évolué? Est-ce qu'aujourd'hui, le métier est moins à l'ancienne et les tracks se font plus sur Internet et on va, en fait, c'est un métier d'ingénieur, on va espionner votre téléphone portable?
Sur le plan intellectuel, non. Les méthodes d'approche pour les psychologiques sur les gens sont les mêmes. Mais effectivement, ça a changé dans la mesure où nous, on avait notre téléphone et on avait notre cerveau uniquement, quoi, c'est tout, et nos capacités intellectuelles. Maintenant, il y a d'énormes moyens électroniques qui fait qu'on peut rentrer dans les ordinateurs, on peut faire des surveillances électroniques très très intenses. Les services ne s'en privent pas, mais tous les services sont comme ça. Et donc, à ce titre-là, oui, le métier a changé, quoi.
Alors, vous racontez
des moyens qu'on n'avait pas avant, quoi.
Vous racontez les différentes affaires auxquelles vous avez eu à traiter, dont l'affaire Farwell. Le film avec Guillaume Canet sur l'affaire Farwell, est-ce qu'il est proche de la réalité d'ailleurs?
Il est assez proche de la réalité, sauf pour les dernières séquences où l'on voit...
S'enfuit en Finlande.
Il y a ça et il y a surtout cette dernière séquence où l'on voit le supérieur de Farwell recruté par les services américains. J'en doute beaucoup. L'affaire Farwell, c'est l'une des meilleures affaires d'espionnage, une des plus belles affaires d'espionnage.
Donc Mitterrand arrive au pouvoir et il y a un espion russe qui est amoureux de la France et qui vous donne énormément d'informations.
Énormément.
Voilà.
Cette affaire a été traitée par Raymond Nart, mon ancien directeur. Elle a été traitée essentiellement par lui et un petit groupe qui était chargé d'exploiter. À la DST, il y avait un cloisonnement qui était d'une rigueur absolue. Et en fait, l'affaire Farwell, nous, dans la division, on l'a appris quand elle est sortie, uniquement. Au moment où on a expulsé...
Chacun travaille sur son petit truc et on ne sait pas l'ampleur de ce qu'on est en train de révéler.
Non, non, non. Personne...
Parce qu'on se méfie du collègue d'à côté ou...
Non, ça,
moins on en sait, mieux ça marche.
C'est la règle qu'on appelle la règle du besoin d'en connaître. Donc, on est appelé chez notre directeur, il nous donne une mission, on la fait, et personne ne viendra vous demander ce que vous faites. Sauf pour les affaires où on est plusieurs, parce que ça nécessite plusieurs fonctionnaires.
Le Bureau des légendes, c'est une bonne série sur ce qui se passe à la DST?
Oui, c'est une bonne série. Oui,
vous aviez un surnom, alors là-bas, il s'appelait Malotru, etc.
Non, moi, nous, on n'avait pas de surnom. On avait des pseudos.
Ouais, alors, c'était quoi, vos pseudos?
Mon pseudo, c'était Laugier.
Laugier.
Voilà.
Alors, quand on vous appelait Laugier au téléphone, vous saviez que c'était l'espion et non pas Jean-Lucas.
Ben non, je savais qui c'était parce que je savais à qui j'avais donné mon pseudo.
Voilà.
Puis je reconnaissais les voix, de toute façon.
Jean-Lucas, votre livre, Un rebelle à la DST, 15 ans d'affaires sensibles, c'est chez Plon. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air qui revient sur le déplacement de Gabriel Attal à Viry-Châtillon sur les violences. C'est dans l'air qui est intitulé ce soir. Ultra-violence des jeunes, Attal lance la contre-attaque.
Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur francetv.fr. À très bientôt.